enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour. Lorsque nous désirons étudier la Bible en détail, celle-ci affirme clairement que certaines doctrines sont plus importantes que d'autres et doivent donc être étudiées en priorité. C'est ce que je vous invite à considérer aujourd'hui par le biais de cet enseignement de Derek Prince, intitulé « De la repentance à la foi » de la série « Poser les fondations ».
Si vous voulez découvrir la place qu'occupe Dieu dans votre vie, découvrez quelle place occupe sa parole, car les deux sont identiques. La Bible est la parole écrite, Jésus est la parole en personne. Au travers de la parole écrite, la parole en personne entre dans vos vies. Aujourd'hui, je voudrais continuer en traitant du fondement doctrinal. Nous avons vu le fondement personnel qu'est Jésus-Christ. Mais le Nouveau Testament nous révèle également qu'il existe un fondement doctrinal. C'est une révélation qui est passée inaperçue aux yeux de millions de chrétiens, mais qui est clairement établie dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. Nous nous y rendons, Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments ou les bases principales de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, vers une complète maturité, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ici, on trouve deux pensées qu'il faut associer. Tout d'abord, il est essentiel de poser le fondement. Si vous n'avez pas posé le fondement, vous ne pourrez jamais bâtir. Mais une fois que vous avez réellement posé le fondement, n'essayez pas de le reposer, mais passez à la construction jusqu'à son achèvement. Voici les deux pensées associées. Vous verrez que dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit « le fondement ». C'est le fondement de la foi chrétienne. Et il liste six doctrines que je vais développer. Première, le renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes, au pluriel. Quatrièmement, l'imposition des mains. Cinquièmement, la résurrection des morts. Sixièmement, le jugement éternel. Si vous suivez cette liste, vous verrez qu'elle nous conduit du point de départ de la foi chrétienne jusqu'à son accomplissement final dans l'éternité. Il est très important de considérer que la foi chrétienne n'a pas de fin dans le temps, qu'elle ne se termine pas dans cette vie ou dans ce monde. Elle nous conduit au-delà de ce monde, au-delà du temps, jusque dans l'éternité. Je voudrais vous parler maintenant du premier fondement doctrinal, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Mais avant, je tiens à relever un point tout à fait remarquable dans le verset 3 d'Hébreux 6. L'auteur déclare, « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nous irons jusqu'à l'achèvement et l'accomplissement si Dieu le permet. » Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi Dieu ne le permettrait-il pas? Il veut certainement que nous y parvenions tous. Je vous répondrai par un simple exemple pris dans la construction. Dans la plupart des villes du monde civilisé aujourd'hui, pour construire un immeuble, il vous faut un plan, un permis de construire, des autorités qui doivent approuver votre plan. Puis elles viendront examiner votre construction au fur et à mesure que vous avancerez. La première chose qu'elles vont examiner sont les fondations, car elles savent que si les fondations ne sont pas sûres, l'immeuble ne le sera pas non plus. Et si les fondations ne sont pas solides, elles ne délivreront pas le permis pour continuer l'ouvrage. Dieu agit avec vous et moi exactement de la même manière. Il déclare, « Je dois examiner vos fondations. Si elles ne répondent pas à mes exigences, je ne vous donnerai pas le droit de poursuivre. » Vous pouvez demeurer pour toujours à ce niveau élémentaire de la foi chrétienne, sans jamais mûrir, sans jamais parvenir à la plénitude, ni à l'accomplissement, parce que vous n'avez pas posé les bonnes fondations. Donc, vous voyez combien il est important que nous maîtrisions ces six doctrines qui constituent les fondements de la foi chrétienne. Nous allons maintenant nous pencher sur la première d'entre elles, le renoncement aux œuvres mortes. Tout d'abord, que sont les œuvres mortes? La plupart des traductions modernes disent les œuvres ou les actions qui conduisent à la mort. Je ne crois pas que cela soit correct. Je crois que les œuvres mortes sont tout ce que nous faisons qui n'est pas fait dans la foi en Dieu. Tout ce qui n'est pas fait dans la foi en Dieu est une œuvre morte. La seule chose qui apporte la vie dans nos activités, c'est la foi. Ainsi, vous pouvez avoir été un très bon pratiquant. Vous pouvez avoir donné de l'argent aux pauvres. Vous pouvez avoir dit des prières. Mais si cela n'a pas été fait par la foi, c'était des œuvres mortes. Vous devez vous détourner de tout ce qui n'est pas fait par la foi. La foi seule donne de la vie à ce que nous croyons et à ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que vous avez forcément vécu une vie de péché, mais que vous n'avez pas été vivant pour Dieu parce que la foi n'est pas venue dans votre cœur apporter la vie de Dieu. Maintenant, il est très important que nous comprenions ce qu'est la repentance. La repentance n'est pas une émotion. J'ai vu tant de fois des prédicateurs chercher à amener les gens dans un état émotionnel, puis à les appeler à la foi en Christ. Et très, très souvent, cela conduit à l'abandon, parce que l'émotion disparaît et ils sont laissés sans rien. Donc, gardez bien à l'esprit que la repentance, telle que la Bible la définit, n'est pas une émotion, c'est une décision. Elle ne provient pas des émotions, mais de la volonté. Si nous parvenons à atteindre la volonté des gens et à changer cette volonté, nous verrons des conversions permanentes. Beaucoup des prétendues conversions dans les églises aujourd'hui ne sont pas permanentes parce qu'elles n'ont jamais vraiment changé la volonté d'une personne. C'était des expériences émotionnelles. Les gens étaient excités. Peut-être se sont-ils sentis merveilleusement bien pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Mais en définitive, ils n'avaient pas ce qu'il fallait parce que leur volonté n'a pas été touchée. Vous savez qu'il y a deux langues majeures dans la Bible. Le grec dans le Nouveau Testament et l'hébreu dans l'Ancien Testament. Chacune de ces deux langues a un mot spécifique pour se repentir. C'est seulement en mettant en vis-à-vis des deux langues que nous comprenons le sens complet de la repentance. Le mot grec, du langage courant, est toujours traduit par « changer d'avis », « changer sa façon de penser ». Donc, la repentance est d'abord un changement dans les pensées sur la façon dont vous avez vécu. J'ai vécu pour me satisfaire moi-même, pour faire mes propres affaires. À partir de ce moment, je vais vivre pour plaire à Jésus, mon Sauveur. C'est une décision. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une émotion. Vous pouvez vous repentir sans émotion manifeste, mais vous ne pouvez pas le faire sans volonté. Et le mot hébreu, qui est tellement typique des Juifs, car ils sont très terre-à-terre, ils veulent savoir, eh bien, comment ça marche? Et le mot hébreu, pour se repentir, c'est « retourner ». Vous avez emprunté un chemin, le mauvais chemin. En retournant à Dieu, vous faites un virage à 180 degrés, face à Dieu, et dites « Dieu ». Me voici, dis-moi ce que je dois faire, et je le ferai. Ainsi, vous mettez les deux mots ensemble et vous obtenez le sens complet de ce qu'est la repentance. La foi ne vient qu'après la repentance. Tout le message de la Bible va dans ce sens, se repentir et croire. Il y a beaucoup de gens, et certains sont ici ce matin, qui luttent pour croire. La vérité, c'est que vous ne luttez pas pour la foi. Vous n'avez jamais rempli la condition de la repentance. Vous voyez, c'est le premier des fondements doctrinaux. Et si vous ne posez pas la pierre de fondation à la bonne place, votre construction sera toujours bancale. Au cours des années, j'ai conseillé des centaines de gens, des centaines de chrétiens, qui venaient avec leurs problèmes personnels. Après beaucoup d'expériences, je suis arrivé à cette conclusion qu'au moins 50% des problèmes de ces chrétiens prétendus ou réels étaient dus à un fait. Ils ne sont jamais vraiment repentis. Ils n'ont jamais vraiment changé leur façon de penser. Ils n'ont jamais pris la décision. Ils n'ont jamais vraiment capitulé devant la Seigneurie de Jésus dans leur vie. Ils considèrent encore la décision à prendre sous cet angle. Maintenant, si je fais ceci, que fera-t-il pour moi? Et si je fais cela, que fera-t-il pour moi? Quand vous vous repentez, ce n'est pas ainsi que vous pensez. Vous pensez, si je fais ceci, Jésus sera-t-il glorifié? Et si je fais cela, Jésus sera-t-il glorifié? Nous trouverons alors des tas de gens, je pense particulièrement aux jeunes, mais pas seulement, qui ont un esprit partagé. La Bible dit qu'un homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Il n'a pas de solide fondement. Il ne peut pas produire une construction stable. Donc, je vous invite maintenant, là où vous êtes, à réfléchir calmement et à vous interroger vous-même. Me suis-je réellement et vraiment repenti? Ou bien ai-je l'esprit partagé? Le lundi, mon but est de plaire à Jésus. Et le mardi, mon but est de me satisfaire moi-même. Vous voyez, vous obtenez réellement le pire des deux mondes. Vous feriez mieux de vivre dans le monde pour vous-même, parce que vous êtes une personne à l'esprit partagé, vous êtes une personne fractionnée. Maintenant, nous devons poursuivre avec la nature de la repentance. Il y a une parabole donnée par Jésus qui est la plus vivante et la plus parfaite illustration de ce qu'est la vraie repentance. C'est la parole dite du Fils prodigue. Quelqu'un a dit qu'il vaudrait mieux l'appeler le Père affectueux. Vous vous souvenez, pour la plupart, de l'histoire dans Luc 15? Le deuxième fils d'une famille riche décide de prendre tout de suite tout l'héritage de son père et part dans un pays lointain pour y vivre. Il commet toutes sortes de péchés. Puis, quand il a dilapidé tout son héritage, la famine survient. Et le seul travail qu'il puisse obtenir, c'est de nourrir des porcs. Et rappelez-vous, il est juif. Et pour lui, nourrir les cochons, c'est toucher le fond. Sans aucune offense pour les éleveurs de porcs. Nous ne disons rien qui soit contre eux, mais c'est simplement un fait que, pour les Juifs, les porcs sont impurs et rejetés. Ainsi, le voici, en haillons, nourrissant les porcs, affamé, souhaitant remplir son estomac avec les carouges que mangent les porcs, et voici ce qui arrive. Luc, chapitre 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Voici le point où vous devez parvenir. Vous devez rentrer en vous-même, ce que j'appelle le moment de vérité. Vous devez vous voir tel que vous êtes. Vous devez vous voir tel que Dieu vous voit. » Étant rentré en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Maintenant, voyez-vous les deux éléments? Parce qu'il continue en disant, « Et il se leva et alla vers son père. » Il prit une décision et retourna. C'est ça la repentance. Prendre une décision et l'appliquer. Retourner vers le Père que vous avez offensé, vers le Dieu qui vous aime, en disant, « J'ai gâché ma vie. Je suis incapable de diriger ma propre vie. J'ai besoin de toi. Voudras-tu me reprendre avec toi ?» Ce qui est merveilleux, c'est qu'il a l'intention de dire, « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais quand il commence à rentrer, Son père est en train de le guetter. Je trouve cela tellement beau. Voilà comment Dieu est. Quand nous commençons à revenir, il nous guette et nous attend.
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou. C'est comme ça que Dieu est. Voilà comment il nous retrouve. Et il l'embrassa. Il ne lui a pas laissé le temps de dire ses derniers mots. « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il a dit, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » C'est le résultat de la vraie repentance. Il s'agit de se repentir pour être accueilli de cette manière par Dieu. Voilà l'image. Pensez-y un moment, s'il vous plaît. Il rentra en lui-même et il dit, « J'ai gâché ma vie. J'ai dilapidé tout ce que mon père m'a donné. Mais je vais prendre une décision. Je vais me retourner. Je vais revenir vers mon père et lui dire que je suis désolé. » Il se retourna et partit. Réfléchissez à cela. C'est la véritable repentance, la repentance en action. Maintenant, il existe une fausse repentance que nous appelons en français le remords. C'est ce qu'a expérimenté Judas, comme cela est décrit dans Matthieu, chapitre 27, versets 3 et suivants. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas eut du remords, mais il ne changea jamais. En fait, je crois qu'il a laissé passer le moment où il pouvait encore changer. Et pour moi, c'est une pensée solennelle. Les gens peuvent laisser passer le moment où il est possible pour eux de changer. Je crois que le moment le plus important dans la vie humaine est le moment où Dieu commence à vous parler de repentance. Si vous secouez les épaules en disant « Non, je ne suis pas intéressé », peut-être plus tard, il n'y a aucune garantie que Dieu vous le reproposera plus tard. Le moment le plus critique de la vie humaine est celui où Dieu dit « Repens-toi. Je veux te ramener à moi. Je t'aime. Je te veux. » J'ai considéré ce que j'ai vu dans la vie des gens et dans la Bible. Je suis parvenu à la conclusion qu'il y a une chose qui met vraiment Dieu en colère, et c'est mépriser sa grâce. Il nous offre sa grâce gratuitement, mais si nous la méprisons, il se met en colère. Il existe une personne qui a méprisé la grâce de Dieu. Savez-vous quel est son nom? Ésaü. Cela est décrit dans Hébreux 12. Je veux étudier ce passage un instant, parce qu'il y a beaucoup d'Ésaü parmi les gens, comme vous et moi. Soyons bien attentifs au fait qu'Ésaü ne prenne pas nos décisions. C'est ce qui est retracé dans Hébreux 12, en commençant au verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Notez bien ceci, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. En fait, nous ne disposons d'aucune information si Ésaü a commis la fornication. Mais son attitude aux yeux de Dieu était aussi grave que la fornication. Quelle fut son attitude? Pour un petit bol de soupe, il a méprisé son droit d'aînesse. Il avait le droit d'aînesse en tant que premier-né. Tout l'héritage devait lui revenir. Mais parce qu'il avait simplement faim, et parce qu'il a senti l'odeur de la soupe délicieuse que Jacob avait préparée. C'est très parlant pour moi qui ai vécu parmi les Arabes un certain temps. Ils font ce que Jacob a fait de la soupe de lentilles. Ils appellent cela en arabe « surabit hadis ». Ça a une odeur absolument délicieuse qui remplit toute la maison. Et je peux imaginer Ésaü rentrant dans la chasse, fatigué, affamé, et sentant cette odeur délicieuse. Et Jacob, le beau parleur, qui lui dit, « Écoute, tu me vends ton droit d'aînesse et je te donne le potage, la soupe. » Et je suppose qu'Ésaü pensait, « Qu'est-ce que mon droit d'aînesse peut bien m'apporter? J'ai faim. Je vais accepter l'offre qui m'est faite. » Et il est dit qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, ce qui mit Dieu en fureur. Plus tard, dans le livre du prophète Malachie, Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». C'est une pensée très solennelle. Si vous méprisez délibérément la grâce de Dieu et l'héritage qui vous est offert en Jésus-Christ, et si vous vous détournez vers des choses vaines, vers les plaisirs temporaires de ce monde, vous mettrez Dieu très en colère. Puis il est écrit, dans la suite du récit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le grec rend tout cela très clair. Il ne recherchait pas la repentance, mais il recherchait la bénédiction. Mais il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu, de chemin vers la repentance. Et je crois vraiment que dans cette vie, une personne peut laisser passer le moment de la repentance et ne plus jamais pouvoir revenir en arrière. Je veux m'adresser à vous de façon tout à fait solennelle. Dans beaucoup de congrégations, de dénominations, on parle trop peu du besoin de repentance. Mais sans vraie repentance, il ne peut y avoir de vraie foi. Vous connaîtrez une expérience boiteuse, faite de haut et de bas. Un jour bien, l'autre pas, parce que vous n'avez pas posé la première pierre de fondation, qui est la repentance, une décision de la volonté de se détourner du plaisir égoïste et de ses propres affaires pour retourner à Dieu, lui faire face et lui dire, « Dieu, me voici, dis-moi quoi faire et je le ferai. » C'est ça la repentance. Il en est parmi vous aujourd'hui qui ne se sont jamais vraiment repentis. Je veux vous suggérer que c'est la source de beaucoup de vos problèmes. Vous connaissez des hauts et des bas. Un jour, vous êtes bien, vivant des réunions merveilleuses à l'église. Vous pensez que c'est merveilleux. Le jour suivant, quelque chose arrive et vous êtes abattu. Vous n'avez jamais vraiment posé la première pierre de fondation. Tout ce que vous avez, c'est un édifice boiteux qui finira par s'effondrer. Maintenant, je veux souligner que la repentance doit venir avant la foi. Il n'y a pas de véritable foi sans repentance. Cela est souligné dans tout le Nouveau Testament. Dans Matthieu, chapitre 3, nous lisons que le ministère de Jean-Baptiste était de préparer la venue du Messie, Jésus. Et quel était son message? En deux mots, repentez-vous. En d'autres termes, la repentance était essentielle à la venue du Messie. La repentance prépare le chemin du Messie jusqu'à ce que le peuple de Dieu, Israël, parvienne à cette expérience de la repentance. Ils n'étaient pas prêts à la venue du Messie. Dans Matthieu 3, versets 1 à 3, il est écrit « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Comment a-t-il préparé le chemin du Seigneur? En appelant le peuple de Dieu à la repentance. Et la repentance est le seul chemin qu'il nous prépare à la venue du Messie dans nos cœurs et dans nos vies. Et ainsi, quand Jean a achevé son parcours, Jésus lui-même, en accomplissement de la parole prophétique de Jean, est venu pour poursuivre le ministère de l'Évangile. Et il est écrit dans Marc, chapitre 1, versets 14 à 15, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez. Vous ne pouvez croire vraiment si vous ne vous êtes pas d'abord repenti. Le premier mot d'ordre qui soit jamais sorti des lèvres de Jésus n'était pas « croyez », mais « repentez-vous ». Je me rappelle une réunion où je me trouvais, en Asie du Sud-Est, où un certain prédicateur avait prêché sur la guérison. Il avait parlé avec beaucoup d'éloquence de la volonté et du plan de Dieu pour guérir et cité certaines promesses sur la guérison. Mais il n'avait pas dit un seul mot sur la repentance. Puis, il appela les personnes à venir devant, et la plupart avaient un passé idolâtre, et ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient faire pour recevoir ce que Dieu offrait. Je le sais, car j'étais amené à les conseiller, Ruth et moi. Ce fut une grande leçon pour moi. Avec ses bonnes intentions et son langage agréable, il a plongé ces gens dans la confusion parce qu'il leur a donné l'impression qu'ils pouvaient venir à Dieu sans repentance. Il n'a pas utilisé le mot repentance une seule fois dans ce prêche. Je ne dis pas cela pour critiquer le prédicateur. Je dis cela seulement parce que j'ai appris une leçon. Et j'ai bien peur que beaucoup, beaucoup de personnes, dans bon nombre d'églises et de services évangéliques, soient dans la confusion à cause du fait qu'ils annoncent tout ce que Dieu va faire pour vous, mais ils ne parlent pas de ce que Dieu vous demande. La première chose qu'il demande, c'est de se repentir. Changez votre façon de penser. Faites un virage à 180 degrés et faites face à Dieu en disant, « Dieu, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Voilà la repentance.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.